Quand je regarde un film à la télé, je préfère qu'il se termine bien, que justice soit faite, que les bons gagnent et les méchants soient punis. Dans les feuilletons d'antan comme Zorro, on sait d'avance qui va triompher. Les histoires pour enfants ont elles aussi une bonne conclusion. Et dans les contes des Mille et Une Nuits, c'est pareil. Nous sommes arrivés à la fin du premier acte du récit d'Esther, où la petite orpheline juive a été élevée au rang d'impératrice. Tout se passe plutôt bien, ou presque. En effet, l'envers du décor est qu'elle est maintenant en possession d'un homme capricieux et dominé par ses passions. Or ce despote, au gré de ses humeurs, risque de reléguer Esther dans son harem au même titre que ses nombreuses autres épouses de second rang. Ce n'est pas tout, car dans le lointain, de noirs nuages, tels des oiseaux de malheur, commencent déjà à se rassembler. Je continue à lire dans le chapitre 2 du livre d'Esther. En son honneur, l'empereur organisa un grand banquet pour tous ses ministres et ses hauts fonctionnaires. Ce fut le banquet d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité impériale. Esther chapitre 2 verset 18. Cette charmante histoire a commencé par un banquet qui a mal tourné pour la reine Vatsti, puisque à cette occasion, elle fut répudiée. Voici donc un autre festin en l'honneur d'Esther. Dans la continuation apocryphe du livre d'Esther, chapitre 14, verset 15, session 70, Esther parle ainsi. « Vous savez qu'au jour où je paraissais dans la magnificence et dans l'éclat, j'ai en abomination la marque superbe de ma gloire, que je porte sur ma tête, et que je la déteste comme un linge souillé. Je ne la porte point au jour où je ne suis point obligé de paraître. Ce diadème est un bandeau orné d'or et de diamants. La tradition des rois perses veut que pour les occasions spéciales, comme l'acquisition d'une nouvelle reine, ils proclament dans leur province un allègement d'impôts, une exemption des corvées et quartiers libres dans toutes les casernes. Je continue. Il y eut un second ramassage de jeunes filles. Or, Mardoché était assis à la porte du palais impérial. Esther, chapitre 2, verset 19. Ce ramassage fait penser à une rafle par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Mais il s'agit simplement d'un renouvellement du harem du roi, rien de plus. Apparemment, il a un gros appétit sexuel. Quant à Mardoché, il assume ses fonctions aux portes du palais, qu'il ne faut pas confondre avec les portes de Suse, la capitale impériale. Dans les villes antiques, le tribunal est composé des anciens de la cité et siège sur la place à l'entrée principale. Tôt ou tard, tous les habitants doivent passer par là, et c'est à ce moment-là que les juges mettent la main au collet de ceux qui ont des comptes à rendre à la justice. C'est aussi à cet endroit que se font toutes les opérations légales, comme la transmission d'héritage, par exemple. La position exacte de Mardoché ne nous est pas donnée, mais comme je l'ai déjà dit, il semble qu'il est portier et contrôle donc les allées et venues au palais. La suite montre que cette place lui permet de communiquer avec Esther, de connaître ceux qui fréquentent le palais et même ceux qui s'y complotent. Je continue. Esther avait tenu secrète son origine familiale et sa nationalité, comme le lui avait ordonné Mardoché. Elle continuait à se conformer à ses instructions comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. Esther, chapitre 2, verset 20. Mardoché a donné ordre à Esther de ne pas révéler son identité juive, un silence qu'elle observe scrupuleusement. On découvre aussi qu'il ne cherche pas à exploiter à son profit la position d'Esther, car tout ignore qu'elle est sa cousine et sa fille adoptive. Tous deux occupent des positions clés à l'intérieur du palais, ce qui va s'avérer fort utile par la suite. Je continue. À cette époque, alors que Mardoché exerçait donc des fonctions au palais impérial, deux eunuques de l'empereur, Bigtam et Teshesh, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxès et cherchèrent à l'assassiner. Esther, chapitre 2, verset 21. Que l'empereur soit agaçant, cela ne fait aucun doute, mais il doit vraiment être imbuvable pour susciter une telle haine. Ces deux hommes, étant des gardes, ils sont armés et peuvent s'approcher du roi sans attirer l'attention. Dans les cours orientales, les intrigues sont monnaie courante, et il y a toujours quelqu'un qui veut faire la peau du despote en place. Xerxès va échapper à cette tentative de meurtre, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter, car de toute façon, il est assassiné 12 ans plus tard par un dénommé Artaban, qui est le commandant de sa garde personnelle. Je finis ce chapitre 2. Mardoché en eut connaissance, et il en avertit l'impératrice Esther, qui mit l'empereur au courant de la part de Mardoché. Après enquête, l'information s'avéra exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence, et l'affaire fut consignée dans le livre des annales en présence de l'empereur. Esther, chapitre 2, les versets 22 et 23. Le livre des annales est constitué de tablettes sur lesquelles on consigne les faits importants concernant l'Empire. Les rois de Perse prennent grand soin de conserver la mémoire de ce qu'il leur arrive. Dans son expédition contre la Grèce, Xerxès était accompagné de scribes qui notaient en sa présence, qui faisaient quoi sur le champ de bataille pour ensuite punir ou récompenser ses troupes. Donc, Mardoché apprend qu'on veut assassiner l'empereur et ça ne fait pas ses affaires parce que, si le complot réussit, non seulement il risque de perdre sa place, mais Esther ne sera plus reine et deviendra une concubine parmi des centaines d'autres. Alors au final, il vote pour Xerxès. Sa position lui permet d'entrer en contact avec sa cousine qui rapporte à l'empereur que sa vie est menacée et que c'est Mardoché qui le lui a fait dire. De cette manière, son nom figure dans le livre des annales, ce qui va s'avérer de la plus grande importance par la suite. Comme la justice était expéditive, après enquête et confirmation, les conspirateurs sont exécutés. L'incident est oublié et l'action de Mardoché en faveur du roi également. Nous arrivons au chapitre 3, où a lieu un événement qui s'est souvent répété dans l'histoire du peuple juif. Quelqu'un du nom d'Aman décide de les exterminer. Plus tard, ce sera l'Inquisition, les pogroms, les nazis, et j'en passe. C'est un pharaon qui a été le premier à persécuter les Hébreux. Il les a d'abord mis en esclavage, mais comme ils continuaient à prospérer, il a décidé d'éliminer tous les nouveau-nés mâles. Mais Dieu a fait capoter son projet. Je commence à lire ce chapitre. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils de Hammedata, du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Esther, chapitre 3, verset 1er. Cela fait déjà 4 ans qu'Esther est impératrice, et la vie suit son cours, quand tout à coup entre en scène le sinistre personnage de ce livre. Le texte ne mentionne aucune raison qui justifie l'élévation d'Aman à la dignité de grand vizir afin de souligner l'injustice politique faite à Mardoché qui a sauvé la vie de l'empereur. Lui n'a reçu aucune promotion particulière, alors qu'Aman devient le numéro 2 de l'Empire. Cet homme sournois est peut-être un descendant d'Agag, roi des Amalécites, ennemi héréditaire d'Israël, dès que les Hébreux sont sortis d'Égypte. Cette tribu les a attaqués sans raison. Je lis le passage en le compressant. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne cela par écrit, pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Puis il ajouta, « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Exode chapitre 17, les versets 8 à 16. Quand Saül, l'ancêtre de Mardoché, était roi d'Israël, l'Éternel lui a ordonné d'exterminer les Amalécites, mais il ne l'a pas fait. Cette désobéissance risque maintenant d'avoir de fâcheuses conséquences, puisque voilà qu'on se retrouve entre frères et ennemis. Pour l'auteur, la lutte entre Mardoché et Aman est la continuation du vieux conflit entre Israël et les Amalécites. Je continue le texte. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur leur passage de Aman. Mais Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Esther, chapitre 3, verset 2. En Orient, on se prosterne comme on respire. C'est la marque habituelle de respect envers un haut dignitaire et ce n'est pas assimilé à de l'idolâtrie. Ce geste est fréquent dans l'Ancien Testament. Par exemple, à l'époque de David, un passage dit « La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle s'inclina face contre terre pour se prosterner et s'écria « Viens à mon secours, au roi !» de Samuel, chapitre 14, verset 4. Mardoché se prosterne évidemment devant l'empereur, mais pas devant Aman. S'il reste debout, ce n'est pas pour des raisons religieuses, mais par haine de race. Exode, chapitre 17, verset 16. Parce que le vizir est un Amalécite, ennemi héréditaire de son peuple. D'ailleurs, il va reconnaître que c'est parce qu'il est juif qu'il ne s'incline pas jusqu'à terre devant Aman. Il n'a pas le moindre respect pour lui. Ce que le texte précise plusieurs fois. Je cite un passage. En passant devant la porte du palais impérial, Aman aperçut Mardoché. Celui-ci ne se leva pas et ne tremblait pas devant lui. Alors, Aman fut rempli de fureur contre lui. Esther, chapitre 5, verset 9. Esther et son père adoptif auraient mieux fait de retourner dans le pays d'Israël, cependant. Tous deux sont prêts à risquer leur vie, soit pour l'honneur de leur peuple, soit pour le sauver. Je continue le texte. Ses collègues lui demandèrent, « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardoché ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Aman pour voir si Mardoché s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Esther chapitre 3, les versets 3 et 4. En avouant son origine juive, Mardoché dit aussi qu'il croit que l'Éternel, le seul Dieu, est créateur du ciel et de la terre. Tous les juifs vénèrent le Dieu unique et vrai et ne se courbent ni devant les idoles, ni devant un homme en signe d'adoration. Dans la continuation apocryphe du livre d'Esther, Mardoché fait la prière suivante. « Je ne me prosternerai devant personne, si ce n'est devant toi, Seigneur. » Si Aman demande non, pas un signe, marque de respect, mais un acte d'adoration, alors aucun juif ne s'inclinera devant lui, ce qui expliquerait la décision d'Aman de se venger sur le peuple tout entier. Dans le livre de Daniel, les ennemis du prophète sont jaloux et cherchent à se débarrasser de lui. Comme ils ne trouvent rien à lui reprocher, ils décident d'utiliser la foi monothéiste pour le coincer. Ils manipulent alors l'empereur Darius, le père de Xerxès, en flattant son orgueil. C'est un peu comme dans la fable du corbeau et du renard. Finalement, Darius ne se sent plus et accepte d'admettre un décret dans tout l'Empire selon lequel lui seul peut être adoré comme Dieu. Je cite le passage. « Tous les ministres de l'Empire, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs ont décidé à l'unanimité en conseil qu'il fallait publier un édit impérial pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque dieu ou quelques hommes que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Daniel chapitre 6, verset 8. Or, le premier et second commandement du décalogue ordonne « Tu n'auras pas d'autre dieu que moi, tu ne te prosterneras pas devant une idole, et tu ne leur rendras pas un culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Exode, chapitre 20, les versets 3 à 5. Aujourd'hui, les multitudes se courbent non plus devant un homme, mais devant Mammon, le dieu de l'argent, et devant Eros, le dieu du sexe. Aman a tout pour déplaire. Il est amalécite, il veut être et se faire passer pour un dieu. Mais le juif Mardoché ne va pas lui accorder la moindre parcelle de respect. Je continue le texte. Quand Aman eut constaté que Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. Esther chapitre 3, verset 5. Il semble que jusqu'à présent, Aman n'ait pas pris garde à Mardoché. Qu'est-ce qu'une personne dans la foule ? Mais maintenant que les serviteurs du roi lui ont fait remarquer que Mardoché le méprise, c'est un défi à son pouvoir, et il en est malade. Ce refus est pour lui un crime de lèse-majesté, ce qui révèle sa petitesse. Il aurait dû ignorer Mardoché, mais non ! En bon mégalomane, il faut que toute la terre s'incline devant lui. Il veut rivaliser avec l'empereur. Plus tard, il va même aller jusqu'à pleurer dans les jupons de sa femme parce que Mardoché ne l'honore pas. Je continue. On lui avait appris à quel peuple Mardoché appartenait, et il jugea insuffisant de porter la main sur Mardoché seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardoché, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Esther chapitre 3, verset 6. Nous arrivons au premier grand tournant de cette histoire. La tension vient d'atteindre un premier plateau. Cet homme, machiavélique, ne veut pas s'en prendre uniquement à Mardoché, mais à tout le peuple juif. C'est le premier cas d'antisémitisme de grande envergure rapporté par un livre d'histoire. Aman rêve d'un immense bain de sang qui lavera l'offense qu'il a subie. La menace qui pèse sur la race d'Israël est très sérieuse. Si le massacre s'étend à toutes les provinces, il va aussi concerner les Juifs qui sont retournés dans leur pays. Eux aussi seront exterminés et la nation d'Israël renaissante disparaîtra pour de bon. L'heure est grave, car si Aman réussit, les promesses que Dieu a faites aux ancêtres d'Israël et son plan pour l'humanité seront rendus caduques. Bien entendu, cela est impossible. Dans le livre de Job, en parlant de l'Éternel, l'auteur dit « Je sais que tu peux tout » et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Job chapitre 42, verset 2. Les hommes peuvent bien concevoir autant de stratèges diaboliques qu'ils veulent. Dieu retournera toujours les situations qui vont à l'encontre de sa volonté. Il a toute une panoplie d'interventions possibles, les démons, les anges, les miracles, le hasard, les actions humaines bonnes ou mauvaises, les concours de circonstances, et bien d'autres encore. Aman ne sait pas encore qu'en s'attaquant aux Juifs, il s'en prend au Dieu du ciel. Quand il s'en apercevra, il sera trop tard. Parmi les promesses que l'Éternel a faites à Abraham, il y a celle-ci. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. » Genèse chapitre 12, verset 3. Le projet d'Aman va mal finir. Il aura son bain de sang, mais les victimes ne seront pas celles qu'il escomptait. Depuis que les Juifs sont le peuple choisi, ils assistent aux funérailles de tous les régimes qui ont tenté de les exterminer. Les promesses que Dieu a faites à Abraham tiennent toujours. Je continue le texte. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan de la 12e année du règne de Xerxès. Aman fit tirer au sort en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre. Le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Esther chapitre 3, verset 7. Jour après jour, la haine d'Aman augmente, car chaque fois qu'il se rend au palais, tout le monde se prosterne bien bas devant lui, sauf le juif Mardoché. C'est au mois de Nisan, le premier de l'année religieuse juive, que les juifs célèbrent la Pâque qui commémore la délivrance des Hébreux du pays d'Égypte. Il est ironique que ce même mois, Aman a commencé à comploter la destruction des Juifs. Comme la majorité des Perses, le grand vizir est très superstitieux. C'est pourquoi il a recours à un tirage au sort afin de déterminer le jour favorable pour l'exécution de son plan meurtrier. L'auteur donne ici l'explication sémantique de l'appellation « fête de Pourim ». Ce nom vient de tirer au sort, qui se dit pour en perse. Bien que les grands massacres aient toujours été chose assez banale en Orient, ce que prépare Aman est de très grande envergure. Il faut donc qu'il s'assure la faveur des dieux. On ne sait pas comment il tire au sort, mais selon le texte, il le fait méthodiquement pour chaque jour de tous les mois de l'année à venir. C'est le jour et le mois qui obtiennent les meilleurs résultats que Aman considère désignés par la divinité. Le sort, qui en éloigne l'exécution le plus loin possible, le sort, c'est-à-dire Dieu recule l'exécution de ce plan un an entier, afin de donner à Mardoché et à Esther le temps d'en arrêter l'exécution. L'auteur laisse entendre, mais sans le dire, que l'Éternel agit dans les coulisses de l'histoire en accordant à son peuple le temps qu'il faut pour déjouer ce complot. Cette histoire témoigne que c'est le Dieu d'Israël, et non pas les divinités perses, babyloniennes, ou le destin qui dirige le cours des choses en ce bas monde.